La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu ce matin, peut-être pour la première fois. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois ce matin à l'Oratoire du Louvre. Vous êtes les bienvenus ici dans ce lieu. Au nom du Christ, vous êtes accueillis. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez aussi par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion avec vous où que vous soyez. Bienvenue à Marie-Pierre Courneau. La pasteur Marie-Pierre Courneau est à l'église Montparnasse-Plaisance dans Paris et elle nous fait l'honneur ce matin de venir prêcher ici et partager ce temps de culte avec nous. Elle nous annoncera la parole. Nous sommes très heureux, Marie-Pierre, de t'avoir avec nous ce matin. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Seigneur, accorde-nous les uns avec les autres, au moment où nous venons partager un temps de fraternité, accorde-nous aussi à ta parole, permets que nous puissions la recevoir fidèlement, et qu'elle porte du fruit en nous. Permets, Seigneur, que ce temps de halte soit la nourriture nécessaire pour repartir dans ce monde avec ce que tu nous apportes, pour que nous puissions partager ce que tu nous donnes avec ce monde qui a besoin de ta parole d'amour. Amen. Et nous chantons ensemble. Le premier répond dans l'entrée des psautiers français, vous trouvez toute la liturgie.
Nous unissons nos cœurs pour louer le Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. Que ma langue soit habile, mon cœur ferme, mon âme éveillée, ma méditation droite et mon cantique agréable. Ô Seigneur, sois attentif à mon murmure, à mes paroles, à ma prière, et mon chant approchera ta gloire. Mon cri ira jusqu'à toi lorsque je me dresserai pour dire ta louange, pour méditer ta justice, pour annoncer ta splendeur et l'éclat de ta force, pour célébrer ta grâce et dire ta vérité. Nul bien ne me sera utile, sinon la justice et l'amour de ta grâce. Car en vérité, je sais que j'ai été conçu pour chanter ton nom et créé pour annoncer ta grandeur. Amen. Et nous le mettons en pratique en chantant le psaume 36, les trois strophes.
Nous,
vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous à travers les paroles du prophète Ésaïe. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libres ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindrait comme l'aurore si tu faisais cela et tu te rétabliras bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais et le Seigneur répondrait. Tu appellerais au secours et il dirait « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre le pays habitable. Le vieux Job, en relisant sa vie, a compris ce qui lui était arrivé et l'humilité qu'il lui fallait devant Dieu. Et il dit à Dieu, « Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Ainsi j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et sur la cendre. »
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de liberté, la parole de grâce qui nous est adressée à travers le prophète Ésaïe aussi. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour. Tout comme lui, il a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit, qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume et qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux, sur la terre et d'éternité en éternité. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 1 à 9. En ces temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Ou encore, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. Jésus disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron : voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour et que j'y mette du fumier. Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Nous chantons le cantique 193. Parle, parle, Seigneur, nous chantons les 3 strophes. Veuillez vous asseoir. Nous prions. Seigneur, nous venons de lire tes Écritures pour y trouver chacun et chacune d'entre nous notre chemin vers ta parole. Ne nous permets pas d'oublier que pour que ta parole arrive jusqu'à nous, il a fallu que des hommes et des femmes la reçoivent, l'écoutent, la fassent vivre dans leur cœur l'interprètent, la transmettent, l'écrivent, la traduisent, la recopient, la relisent et l'aiment. Aujourd'hui, c'est à nous qu'elle est confiée pour que nous l'aimions et la fassions vivre. Amen. Frères et sœurs, chers amis, est-ce à cause de leurs abominables péchés que ces Galiléens ont subi un terrible sort, qu'un dirigeant violent et fou les a fait assassiner sur l'autel des bêtes qu'ils sacrifiaient à Dieu? Est-ce parce qu'ils étaient de piètres croyants que d'autres ont fini broyés sous l'écroulement d'une tour? Eh bien non. Non, dit Jésus. Et deux fois, Jésus dit non, je vous le dis. Jésus veut être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. Ces morts terribles n'ont rien à voir avec les péchés. Et le vieux Job nous l'avait déjà dit. Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Le mal n'est ni voulu par Dieu, ni une réponse à notre mauvaise conduite. Alors quand je dis le mal, eh bien pour faire court, je pense aux catastrophes naturelles. Ici, c'est un éboulement de pierre. Mais je pense aussi au mal incarné dans un humain, puisque dans ce texte, Luc nous présente Pilate comme un leader violent et sanguinaire. Il est malheureusement trop facile de trouver dans notre dramatique actualité des exemples contemporains. Mais voyez-vous, je crois, moi, que ça les aurait bien arrangés, les interlocuteurs de Jésus, que les terribles péchés soient à l'origine des grands maux. Et peut-être que ça nous arrangerait bien aussi, parce que l'on pourrait se dire que les petits pécheurs de rien du tout sont assurés d'avoir une mort tranquille dans leurs vieux jours. C'est assez tentant, n'est-ce pas? Ce serait très rassurant de se savoir à l'abri des catastrophes, puisque quand on regarde nos vies, allez, il n'y a pas de si gros péché que ça. Et s'il y en a, eh bien, nous avions certainement des circonstances atténuantes. Je vous laisse faire l'inventaire. Eh bien voilà, c'est raté. Notre mort n'aura rien à voir avec nos péchés. Et le mal existe. Il existe dans la création et dans l'être humain. Ni la création ni l'être humain ne sont Dieu. Ni la création ni l'être humain ne sont parfaits. Et finalement, c'est beaucoup plus dur à avaler, je crois, ce mal en quelque sorte gratuit. Peut-être préférerions-nous un mal qui serait là en réponse à nos fautes. Nous aurions d'une certaine façon l'impression d'avoir la main sur le mal. Mais Jésus ne va pas laisser ses interlocuteurs sur cette triste découverte. Il poursuit. Si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. Qu'est-ce que cela veut dire, vous disparaîtrez tous de même ou tous pareillement? Tous assassinés par les Romains, par un tyran, tous écrasés par un éboulis? Je ne crois pas. Je crois que cela veut dire que nous finirons tous morts. Alors bien sûr, vous allez me dire que nous finirons tous morts, de toute façon. Nous mourrons tous, ça c'est sûr. Mais ce ne sera pas une fin, pas comme ces personnes dont parle Luc et dont on ne peut rien dire d'autre que les circonstances de leur mort. On croirait que leur vie est réductible à leur mort. La proposition que Jésus nous fait, c'est celle d'un changement radical, d'une conversion. Je dirais même d'une double conversion. La première conversion, arrêter de croire que les malheurs qui s'abattent sur nous sont le reflet de nos fautes. Je sais, vous allez me dire que pour des protestants, il n'y a pas de souci, c'est déjà fait depuis longtemps. À chacun de voir si au fond de lui, il ne reste pas quand même quelque chose de cette volonté d'avoir finalement une autorité sur le mal, que ce mal nous soit relié d'une certaine façon. Mais ces malheurs qui s'abattent sur nous ne sont que le reflet de la vie. Cette vie qui ne peut prospérer sans heurts et sans mal. Deuxième conversion, perdre l'orgueil de penser que tout s'arrête avec notre propre mort. La vie que Dieu nous offre, hier, aujourd'hui, demain, cette vie n'est pas tributaire de notre vie terrestre et humaine. Et pour illustrer ces paroles, Jésus propose une parabole, celle que l'on appelle classiquement le figuier stérile. Alors vous le savez, les paraboles ne sont jamais à prendre au sens propre. Elles nous invitent au voyage, à nous lancer à la rencontre de la parabole, de la parole, dans un chemin qui est propre à chacun, à chacune de nous et qui déjà nous déplace. Notre parabole met en scène trois personnages. Le propriétaire terrien, appelé l'homme, l'ouvrier vigneron et le figuier. Le décor, un figuier planté au milieu d'une vigne. Et voyez-vous ça, c'est énorme. Si on se réfère au Deutéronome, verset 9 du chapitre 22, eh bien, c'est interdit. Je cite, « Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une deuxième sorte de plante, sinon tout deviendrait sacré à la fois, ce que tu aurais semé est le produit de ta vigne. » Fin de citation. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une deuxième sorte de plante. Tout deviendrait sacré. Or, rien ne peut devenir sacré. Rien ne peut concurrencer Dieu. Ce serait une injure faite à Dieu. C'est pour cela que chaque fois que nous voyons quelque chose de sacré, eh bien, c'est de l'ordre du tabou. Pour en revenir à notre parabole, eh bien, nous croyons qu'elle plante comme décor un paysage banal, alors qu'en réalité, elle débute par un tabou. Et puis ici, le problème, eh bien, c'est que ce figuier n'a pas de fruits. L'homme est venu 3 ans de suite sans en trouver. Il prend la parole pour dire sa détresse devant cette absence de fruits. « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. » Entendez-vous à travers ces paroles la déception infinie? Et derrière cette déception infinie, on entend l'espérance infinie qu'il avait mis dans cet arbre. Une espérance qui l'a conduit à venir, à revenir, à revenir, porté par l'espérance de trouver du fruit pour lui. Mais rien. Cet homme n'a rien fait pour mériter les fruits. Ce n'est pas lui qui a acheté l'arbre. Ce n'est pas lui qui l'a planté. Ce n'est pas lui qui l'entretient. Ce n'est pas lui qui le garde. Il n'en est que l'heureux bénéficiaire, gratuitement. Et le prérequis de toute cette histoire, eh bien, c'est un don. Cela nous rappelle que nous sommes toujours, toutes et tous, précédés par un don. Cette vie, cette terre que nous avons reçue et bien d'autres choses encore. Notre homme qui pense que les fruits lui sont dus est furieux et prononce la sentence « coupe-le ». Et voilà que l'ouvrier vigneron entre en scène. Il prend la défense de l'arbre. On était sur le terrain de la faute commise par l'arbre et qui allait lui coûter la vie. Mais voilà que la faute est remplacée par la responsabilité de l'ouvrier vigneron qui se joue dans le futur. En prenant soin de l'arbre, il prend le risque à sa charge, il en devient la garantie. Et il remet au centre l'espérance du propriétaire, cette espérance infinie qui expliquait son infinie déception. C'est tout d'un coup un champ de possibilités ouvert par l'ouvrier vigneron. Laisse-le encore cette année. Laisse-le. Laisse-le, c'est en grec, ce verbe aphémi, c'est celui que l'on utilise dans l'expression « pardonner les péchés ». Vous entendez toute la libération qu'il y a dans ce « laisse-le, laisse-le, laisse-le aller, fais-lui confiance, laisse-lui, non pas une deuxième chance, l'homme est déjà venu 3 fois, laisse-lui une 4e chance. » Cette 4e chance, c'est de donner du fruit à l'avenir. Alors voilà un sursis bien large, bien éternel, à l'avenir. Et là aussi, le grec nous interpelle. À l'avenir, c'est ce mot, mello, qui s'emploie pour dire être sur le point de, avoir l'intention de. À l'avenir, tout est possible. Et nous aussi, Dieu nous laisse. Non pas qu'il nous abandonne, bien au contraire. Il nous fait confiance. Il laisse nos péchés de côté, c'est lui qui s'en occupe. Et il les remplace par l'espérance. On interprète souvent cette parabole en disant que nous sommes le figuier stérile, Dieu le propriétaire juge et Jésus le vigneron intercesseur qui plaide notre cause de pécheur auprès de Dieu et obtient un sursis. Cette interprétation est sûrement influencée par les paroles de Jésus sur la croix dans l'évangile de Luc, quelques chapitres plus loin. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais il y a d'autres lectures possibles, et celle que je vous propose ce matin, c'est de penser que Dieu soit le fumier. Qui, mieux que Dieu, peut nous permettre d'être féconds et nous permettre de donner du fruit? Mais qu'est-ce que c'est finalement que ce fruit tant attendu? Qu'attend-on de ce figuier? Des figues? Luc ne le dit jamais. Il y a tout à fait un mot en grec pour dire figue, mais ce n'est pas celui que Luc emploie. Il dit fruit. Ce figuier pourrait donner à l'avenir bien autre chose que des figues. Qui sait? À l'avenir, tout est possible. Nous ne serons pas condamnés en raison de nos fautes. Le figuier ne sera pas coupé parce qu'il n'a pas donné de fruits. Sur ces bonnes bases, reste à l'exhortation de Jésus à nous transformer, à changer radicalement, à nous convertir, à déposer notre vie dans les mains de Dieu, à la lui remettre, à la lui laisser, à ne plus dépendre que de lui, comme le figuier du fumier. Est-ce que certains d'entre vous ont un figuier? Oui, j'ai vu des oui. Eh bien, vous n'avez pas souvent dû mettre du fumier à votre figuier. On ne met pas de fumier dans un figuier, c'est inutile. Eh oui, ce que Dieu nous propose est inutile. Et c'est bien pour cela que je suis tout à fait sûre que ce propriétaire juge qui condamne l'inutilité ne peut pas être Dieu. L'utilité est une valeur clé de nos sociétés et de nos vies, ça c'est certain. Moi je me désespère quand j'entends certaines personnes âgées dire « je ne sers plus à rien ». Mais quelle est cette société, quelle est cette vie qui leur a mis dans la tête qu'il fallait servir à quelque chose, que la valeur des personnes se mesure à leur utilité? C'est sûr, on aimerait bien parfois une solution efficace, surtout en ce moment. Une solution efficace pour arrêter les horreurs de la guerre. Mais ce fruit inconnu du figuier, ce fruit à venir, ne sera pas un fruit utile. En tout cas, pas utile au sens humain. La proposition de Dieu est inutile. Elle est au-delà de l'utile. Elle est de l'ordre de l'espérance infinie, de l'espérance sans limite. Le théologien François Beauvon parle d'une espérance contre toute espérance. Et le pasteur Alphonse Maillot dit plus simplement « un amour plus fort que tout, plus fort que la mort ». Car bien sûr, la menace de mort est toujours là, pour le figuier comme pour nous. Et cette mort où nous serions séparés de Dieu, eh bien, c'est là qu'est notre péché. Mais l'espérance de Dieu nous dépasse dans toutes ses dimensions, dans tout ce que nous pourrions attendre. Et notre fruit, notre contribution, c'est d'y croire. C'est ce changement que Dieu attend de notre part, de nous laisser aller dans la confiance de Dieu. Elle nous ouvre à son espérance infinie. Frères et sœurs, à l'avenir, tout est possible. Amen. Levons-nous pour chanter et affirmer notre confiance. Avec de quoi t'alarmes-tu ? C'est le cantique 311, nous chantons les trois strophes.
Bonjour à tous. Au nom du Conseil presbytéral, quelques annonces. Merci Marie-Pierre. Merci aussi David Cassan qui est à l'orgue. Et également, je précise, Agnès Adeline Schaeffer, pour ceux qui ne lisent pas la newsletter, est actuellement en train de prêcher dans ta paroisse, Marie-Pierre. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous maintenant. Alors avant d'espérer des fruits, vous voyez ces fleurs jaunes et blanches. Elles ont été portées par l'Assemblée mercredi dernier. Nous avons organisé une veillée pour la paix en Ukraine avec l'église Saint-Eustache et également la cathédrale gréco-catholique de Paris. Donc nous espérons qu'il y aura beaucoup de fruits, mais nous avons été beaucoup à apporter ces fleurs et également beaucoup en ligne puisque le culte, la veillée a été suivie par plus de 160 personnes en direct. Ça a été aussi l'occasion de donner la parole aux sociétés, enfin aux associations humanitaires, et notamment au Centre d'action sociale protestant, qui est sur le pont en ce moment, avec plein d'autres fondations et fédérations et associations. Mais nous relayons à nouveau cet appel du Centre d'action sociale protestant pour l'initiative qu'ils ont lancée, qui est hébergement citoyen, pour que nous puissions chacun héberger, si nous en avons la possibilité, une famille de réfugiés ukrainiens ou non ukrainiens venant d'Ukraine. Également, en termes de solidarité, vous savez qu'on, dès qu'on peut tendre la main, on l'attend. Cet après-midi à 16h, vous avez le concert de l'Armée du Salut, hein, qui vient ici à 16h. Soyez nombreux à les accueillir aussi, parce que les salutistes aussi, c'est leur métier, j'allais dire l'entraide, c'est leur engagement. Donc vraiment, venez les écouter à 16h. C'est un band qui s'est créé il y a plus de 50 ans, 70 ans je crois. Et donc des salutistes viendront jouer cet après-midi à 16h. Également, si nous avons des désirs de fruits, nous pouvons avoir des désirs d'enfants, des désirs d'avenir. Et tout à l'heure, juste après le culte, Marie-Pierre nous fait la joie de rester déjeuner avec nous et Béatrice. Donc, si vous n'avez, donc le déjeuner, c'est constitué de ce que vous apportez. Donc, si vous n'avez encore rien acheté, ce n'est pas très compliqué. Plein de magasins sont ouverts. Vous achetez quelque chose, du pain, un gâteau, et vous venez le partager avec Marie-Pierre et Béatrice à la maison presbytérale. Et juste après, elles vont parler de désir d'enfant, de désir de fruits, de désir d'avenir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu d'enfant ou pas de désir d'enfant que ça ne peut... Il n'y a pas d'obligation à avoir réussi à faire des enfants ou à ne pas en faire pour venir. Soyez vraiment les bienvenus. Vous rencontrerez Marie-Pierre. Marie-Pierre, tu peux nous dire deux mots de ta vie d'avant ?
Ma vie d'avant, ma vie de pasteur ?
Oui.
Voilà, j'ai été médecin pendant 20 ans. Et j'ai travaillé dans un centre qui s'occupait des risques des médicaments chez la femme enceinte. Voilà, ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais je pourrais vous expliquer tout à l'heure.
Voilà, donc restez nombreux déjeuners avec Béatrice et Marie-Pierre. Agnès, elle va déjeuner à Montparnasse, mais rejoindre pour cette session de désir d'avenir qui sera à peu près jusqu'à 15h. Donc juste en sortant, vous allez à la maison presbytérale. Et après, vous allez vous promener, prendre un goûter, profiter du soleil. Et puis, vous revenez à 16h. Voilà, c'est le programme de la journée. Également, une annonce. La trésorière, vous avez annoncé fin février, je crois toi aussi Béatrice, que nous allions tenter de faire l'Assemblée Générale le 3 avril, qui était le seul dimanche d'avril disponible, si on ne veut pas le faire pendant les élections ou les vacances scolaires. Ou Pâques, parce qu'il y a quand même Pâques aussi, accessoirement, en avril. Beaucoup de paroisses ont décidé de les faire le dimanche des élections. Nous, étant l'Oratoire du Louvre étant une paroisse d'adoption, on se dit que ce n'est pas une bonne idée parce que beaucoup d'entre nous et d'entre vous sont en province à ce moment-là pour voter. Donc, on va revenir vers vous, on fera probablement l'Assemblée Générale au mois de mai. Parce que le 3 avril, c'est le marathon. Et quand on voit ce que a donné comme difficulté pour accéder à l'oratoire ce matin avec le semi-marathon, le 3 avril, jour de marathon, ça va vraiment être très très compliqué. Donc nous abandonnons l'idée du 3 avril et puis nous t'écoutons, Marie-Pierre, rien n'a sert de courir. Ceux qui veulent courir iront faire le marathon le 3 avril, mais nous, on va se donner un peu de temps. Voilà, on va souffler. Dimanche prochain, la parole se transmet. Tu l'as dit tout à l'heure, elle se vit, elle se transmet, Marie-Pierre, et nous avons la chance de recevoir Karine Sicard-Bouvatier, qui va nous présenter son dernier ouvrage juste après le culte, dans le cadre du cycle Livre et spiritualité. Karine Sicard-Bouvatier, son ouvrage est en vente à la librairie. C'est sur le dernier témoignage des déportés, leur ultime transmission. C'est vraiment passionnant, c'est plein d'humanité. Et cette parole qui se transmet, elle est fondamentale, et cette mémoire. Donc soyez nombreux à rester dimanche prochain après le culte. Je m'arrête là, je vous souhaite un excellent dimanche, et nous allons lancer l'offrande, à moins que ce soit toi, Marie-Pierre, qui le fasse. Non.
Bon. Volontiers.
Le don est joyeux à l'Oratoire du Louvre. Voilà.
Le don est joyeux, ça c'est certain, et ce qui compte le plus pour Dieu, ça n'est pas la quantité que vous donnez. Comme je ne connais pas le trésorier de l'oratoire, je n'ai pas grand-chose à craindre. Ce n'est pas la quantité que vous donnez, ce qui compte, c'est la joie que cela vous procure. Alors, chers amis, soyez très joyeux.
Voilà, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde. Soyons extrêmement joyeux. Et pour ceux qui sont en ligne, le bouton est rose et il est sur la première page du site Internet. Merci à tous.
Nous faisons un instant de silence pour chercher en nous ce que nous avons à présenter à Dieu. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que la guerre est en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine. Nous te prions pour la Russie. Nous te prions pour tous les peuples et tous les pays en guerre. Nous nous tournons vers toi alors que des drames sévissent partout dans le monde. Nous te prions pour Madagascar. Nous te prions pour tous les endroits qui font face à des catastrophes naturelles. Sois le soutien de tous ceux qui, dans tous les lieux de ta création, sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants. Et surtout, maintiens en nous l'esprit d'amour, celui qui distingue en l'autre un frère, une sœur. Seigneur, fais de nous des artisans de ta paix. En communion avec les chrétiens d'hier et de demain, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, nous te disons ensemble la prière que tu nous as donnée. Et chacun peut la dire dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez, laissez-vous aller à la confiance, à l'espérance que Dieu a pour vous. N'oubliez pas, à l'avenir, tout est possible. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.